À votre vrai métier, la météo et par SMS.
Simple, hein, pour moi.
Hervé à 8 degrés dans les Vosges, une pluie éparse, c'est le programme du jour.
Bon, alors il va pleuvoir pratiquement toute la journée sur les régions de l'Est. On a de bonnes pluies actuellement entre la région lyonnaise et les Vosges, justement, mais également en Provence ou encore vers le sud des Alpes. Il va donc pleuvoir toute la journée. Il y aura du soleil près des Alpes-Maritimes et surtout en Corse assez rapidement. Et puis ailleurs, on va retrouver notre panel de nuages, d'averses, d'éclaircies assez brefs, parfois quelques orages cet après-midi sur le nord-ouest, avec des températures qui restent fraîches par endroits. Pas plus de 12 degrés à Lons-le-Saunier cet après-midi, 14 à Lille, 17 à Paris, mais 21 quand même à Bastia.
Merci beaucoup Valérie. RTL, il est 8h.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Le journal, bonjour Rachel Sadodine.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et à la une, Éric Dupond-Moretti qui veut s'attaquer à la lutte contre la criminalité organisée, contre les gros trafiquants.
Statut de repenti, nouveau parquet national dédié, le garde des Sceaux dévoile un grand plan. On vous explique en quoi ça consiste dès le début de ce journal. Des bébés mordus, oubliés, seuls dans une salle, retrouvés sur un parking. Ça se passe dans une crèche du Tarn. Les parents témoignent et se mobilisent. La 13 à l'ouest de Paris encore en partie fermée, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Paris pas encore champion de France de football, le prochain match déterminant c'est ce soir. Et puis la reconversion pas banale d'un volleyeur professionnel, un dernier match avant de rejoindre l'église.
RTL Matin.
Le ministre de la Justice veut s'attaquer à la criminalité organisée et les gros trafiquants de drogue.
Éric Dupond-Moretti veut renforcer l'arsenal judiciaire pour mieux lutter contre ce qu'il qualifie de délinquance du haut spectre. Dans une interview publiée ce matin dans la Tribune dimanche, le garde des Sceaux promet notamment la création d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée, Cindy Hubert.
Oui, tout cela part d'un constat, le constat d'un paradoxe. Tout ce qui relève du trafic de stupéfiants en bande organisée est jugé par des magistrats professionnels devant une cour d'assises spéciale, exactement comme les terroristes. Mais lorsque ces trafiquants tuent, ils se retrouvent devant une cour d'assises classique, avec des jurés tirés au sort, des citoyens lambda qui peuvent subir des pressions, des menaces. Le gouvernement voudrait donc que ces meurtres liés au trafic de drogue soient désormais jugés uniquement par des magistrats professionnels. Éric Dupond-Moretti souhaite également innover en créant une association de malfaiteurs en matière de criminalité organisée. Il cite l'exemple de trafiquants qui importeraient de la cocaïne de Colombie. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 10 ans de prison. La peine serait doublée, 20 ans, avec cette nouvelle infraction.
Les précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Un grand plan qui prévoit aussi la création d'un véritable statut de repenti.
Et ce grand plan dévoilé par Éric Dupond-Moretti, on en parle avec notre invité, l'avocat pénaliste maître Hugues Vigier. Rendez-vous à 8h45.
Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège vraiment. Emmanuel Macron se redit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne dans un entretien avec de jeunes Européens publié dans la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État dit aussi vouloir inclure l'arme nucléaire dans les discussions. Après la fin du blocus à Sciences Po Paris, Gabriel Attal resserre la vis. Il n'y aura jamais de droit au blocage. Les mots du Premier ministre en réaction à la mobilisation des militants pro-palestiniens. Ils ont évacué les locaux de l'établissement vendredi soir après un accord avec la direction.
RTL 8h03, on vous en parle ce matin. Cette situation alarmante dans une crèche du Tarn, des cas proches de la maltraitance.
Un meuble qui s'écroule sur un bébé, un enfant oublié dans une buanderie pendant 2 heures, un autre retrouvé sur le parking après s'être échappé. Depuis 2 ans, les incidents se multiplient dans la crèche privée Babylou de Lavore. Les salariés affirment être totalement sous l'eau. Elles dénoncent un manque criant de moyens. Les parents, eux, craignent pour leurs enfants. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif dont fait partie ce papa. Il a déjà retrouvé sa fille recouverte de morsures à plusieurs reprises.
C'était 5 ou 6 morsures sur plusieurs parties du corps, dont une au visage assez proéminente avec un bleu. Et puis surtout, ma fille, à l'époque, ne marchait pas. Donc, elle n'était pas en capacité, si vous voulez, de s'extraire ou de se défendre. Donc, pour moi, il aurait fallu vraiment qu'un adulte de l'équipe éducative soit présent à ce moment-là. Le problème, c'est que ça s'est reproduit plusieurs fois. J'ai demandé vraiment des explications claires, nettes et précises. La crèche nous a dit, vous inquiétez pas, c'est les enfants, c'est leur manière de communiquer. En gros, on m'a fait comprendre que c'était un manque de surveillance. Quoi.
Un témoignage recueilli par Valentin Larquier pour RTL.
Avis aux automobilistes franciliens, si vous empruntez la 13, vous n'êtes pas au bout de vos peines.
La portion fermée entre le boulevard périphérique parisien et la 86 n'est pas prête de rouvrir. Interdite à la circulation dans les deux sens depuis déjà 10 jours à cause de fissures repérées sur la chaussée, eh bien la préfecture parle maintenant de faibles mouvements de terrain et explique devoir mener des analyses complémentaires avant d'envisager une réouverture. En attendant, Antoine de Carne, les riverains perdent patience.
Comme de nombreux habitants des Yvelines, Guilin n'a cessé de calculer le temps perdu cette semaine.
Auparavant, je mettais 28 minutes et il faut compter 45 minutes de plus.
Depuis la fermeture de la 13, ce responsable commercial, habitant de Garches, a dû modifier son quotidien.
Il faut s'habituer avec la vie de famille, s'arranger avec ses clients. Je prends des axes secondaires et toutes les rues de Garches, de Vaucresson, de Marne-la-Coquette sont complètement bouchées.
Ce sont tous les centres-villes des communes habituellement desservies par la 13 qui bouchonnent désormais. Et cela embête même ceux qui ne prennent pas la voiture, comme Cassandre.
Je fais du vélo taf, avec les rues complètement embouteillées dans Saint-Cloud. Vous êtes toujours obligé de dépasser par la gauche. Comme les rues sont souvent à double sens et qu'elles sont étroites, avec des stationnements des deux côtés et qu'il y a beaucoup de voitures, des gens qui connaissent pas le trajet qu'ils empruntent, c'est hyper accidentogène.
Et pour désengorger au maximum les communes, plusieurs voix s'élèvent pour demander la gratuité des péages de l'A14 et du tunnel de l'A86. Pour Marie, cette solution est urgente.
Vu que là, c'est vraiment un imprévu, je vois pas pourquoi on devrait payer. Ça devrait être gratuit et accessible pour tout le monde.
En cas de fermeture prolongée, c'est le ministère des Transports qui devrait trancher.
Le reportage d'Antoine de Carne pour RTL. Une réunion d'experts doit avoir lieu demain. On en saura plus à ce moment-là sur la date de la réouverture de cette portion de la 13. L'actualité à l'étranger, c'est le Hezbollah libanais qui dit avoir visé ce matin le nord d'Israël avec des drones et des missiles guidés. Une riposte aux frappes israéliennes dans le sud du Liban qui ont fait 3 morts dans la nuit selon le Hezbollah. Hier, le Hamas a diffusé une vidéo montrant 2 otages israéliens, publication sur fond de négociations en vue d'une trêve et de la libération des civils encore retenus dans la bande de Gaza.
Dans un instant, le football, le sacre du PSG encore retardé hier soir. Et puis un volleyeur professionnel et une reconversion peu banale, c'est juste après ça.
RTL Matin.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Eh bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2+1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le 3e pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Et la suite du journal de Rachel Sadodine à 8h07 après le match nul hier soir face au Havre. Le PSG n'est toujours pas champion de France de foot.
Les Parisiens neutralisés par les Havrais au Parc des Princes. Score final 3 partout en cette 31e journée de Ligue 1. Alors, nouveau scénario aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain sera bel et bien sacré pour la 12e fois. Si et seulement si Monaco ne bat pas Lyon ce soir au Groupama Stadium. L'OL encore sonné par sa claque contre Paris 4-1 la semaine dernière, qui reçoit donc le dauphin Monaco, mais qui ne compte pas pour autant se laisser faire, comme l'explique le coach lyonnais Pierre Sage.
Bien sûr, c'est toujours des étapes qui sont difficiles à passer, contre Monaco comme contre Paris. On va avoir affaire à un match où il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Charge à nous d'être encore meilleurs qu'eux dans ces différents domaines de jeu. C'est des équipes aujourd'hui qui sont tellement complètes dans ce qu'elles font. Il n'y a pas un domaine dans lequel elle pêche vraiment, donc c'est bien, parce que ça nous demande aussi nous d'être un peu bons partout, alors qu'avant notre salut il passait par 2 ou 3 moments du match. De toute façon on est ambitieux, on l'a affiché, donc vous l'assumez. Donc oui, ce sera difficile de battre Monaco, mais j'espère que ce sera très difficile pour Monaco d'espérer quelque chose contre l'OL.
Un Pierre Sage au micro RTL de Frédéric Perruche, OL Monaco, coup d'envoi à 19h, avant ça à 13h, Lille se déplace à Metz, et puis à 15h le multiplex, hein, Lorient-Toulouse, Clermont-Reims et Strasbourg-Nice. 17h05, le derby breton, Rennes, Brest, et puis le choc de la soirée, Marseille reçoit Lens à 21h. Match à vivre dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro.
On termine ce journal avec l'histoire d'un joueur de volley qui s'apprête à changer radicalement de vie.
Oui, et c'est peu dire. Hein. Ludovic Duhay, capitaine du club de Saint-Nazaire, ce soir, il affronte Tours en espérant décrocher le premier titre de champion de France de Liga de l'histoire du SNVBA. Et ce match, ce sera le dernier pour Ludovic et pour cause Mourad Djabari. Le jeune homme de 32 ans s'apprête à entrer dans les ordres.
Oui, avant que le bon Dieu prenne Ludovic Duhay dans son équipe, il a un dernier match, le dernier match de sa vie à jouer ce soir.
Moi, je trouve ça passionnant de jouer l'ogre chez lui pour un match de conclusion.
Le capitaine d'1m92 à la barbe d'hipster bien taillée, Ludovic Duhay va s'éloigner des parquets, il va troquer son short et ses genouillères pour la soutane. Le volleyeur a grandi dans une famille catholique, pratiquante, mais lui s'est toujours contenté du minimum. Une heure de messe le dimanche et basta, comme il dit, mais le confinement a tout changé.
Ma foi était au ras des pâquerettes. Le Covid a été une grande grâce reçue pour moi, où je me suis retrouvé tout seul enfermé chez moi. Ça a été remuant. Et j'ai dit, ok Seigneur, ça va, on fait un temps mort. Je veux bien tourner un peu mon regard vers vous. La plus grande chose que le Seigneur a bien voulu me dire, c'est qu'il m'aimait. Ça a été juste génial pour moi.
Réconcilié avec Dieu, Ludovic Duhay a alors trouvé, en plus du droit chemin, une reconversion pour son après-carrière.
Bien, à la fin de la saison, je vais être postulant à une abbaye, dans une communauté religieuse, pour savoir si ça peut me convenir et leur convenir à la fois.
Après cette finale devant des milliers de personnes dans la bruyante salle Tourangelle, Ludovic Duhay va s'écarter du monde, vivre dans le silence pour devenir peut-être le premier prêtre champion de France de volley.
Et le coup d'envoi de la rencontre, c'était 19h, Tours Saint-Nazaire en volleyball.
Merci beaucoup Rachel Sadodine, vous revenez à 9h pour informer les auditeurs. L'actualité en direct, vous l'avez sur RTL.fr. Il est 8h11, l'édito de Bruno Jeudy, le directeur délégué du journal La Tribune Dimanche. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Alors on en parlait dans le journal avec Rachel. Éric Dupond-Moretti le dévoile ce matin dans vos colonnes, le garde des Sceaux détaille son plan contre les gros trafiquants de drogue et cela ressemble à la solution italienne quand notre voisin s'est vraiment attaqué aux mafias.
Absolument Antoine, Éric Dupond-Moretti qui dispose de la double nationalité française et italienne reconnaît avoir dupliquer la méthode italienne pour s'attaquer aux narcotrafiquants, ceux-là même qui sont en train de pourrir nos quartiers, nos villes et nos campagnes, mais aussi de pénétrer ports et aéroports et corrompre magistrats, policiers et douaniers. Le ministre de la Justice a donc décidé de mettre en place un plan choc qu'il compte installer via un projet de loi organique à l'automne avec l'aide de son conseiller Jean-François Ricard, ancien procureur national antiterroriste chargé de mettre sur pied ce parquet national anti-crime organisé. Le ministre de la Justice veut déployer un arsenal inédit en France. Il s'appuiera pour ça sur ce qu'ont fait les Italiens quand leur pays s'est attaqué aux mafias et a fait tomber Totorina, le sinistre mafieux, auteur de près de 120 homicides et jugé dans un maxi-procès à Palerme il y a 3 décennies. Éric Dupond-Moretti veut donc une cour d'assises spéciale avec uniquement des magistrats professionnels pour éviter les pressions sur les jurés. Il veut aussi un véritable statut du repenti ainsi qu'une peine de prison de 20 ans pour association de malfaiteurs en matière de stupéfiants. Bref, il met les moyens à la hauteur d'un État qui veut éviter, à l'instar de la Belgique ou des Pays-Bas, de tomber plus ou moins sous la coupe des narcos. Après presque 4 ans au ministère de la Justice, l'ancien avocat pose donc sa marque sur ce ministère et remplit un peu plus son bilan, celui d'un ministre devenu le maillon fort du gouvernement.
Merci Bruno Jeudy, directeur délégué du journal La Tribune Dimanche.
Avec notre partenaire La Tribune Dimanche, c'est votre nouveau journal généraliste, curieux et nuancé, pour que vos dimanches ressemblent enfin à des dimanches.
Les courses à présent, Dominique Cordier, on vous écoute pour le quintet du jour.
Rebonjour Antoine, bonjour à tous. Nous sommes à Longchamp cet après-midi pour un quintet qui a réuni 16 concurrents. C'est une épreuve de plat, longue 2400 mètres, course très ouverte. Cette épreuve pourrait sourire à mon outsider, l'outsider de RTL, le numéro 11, Tumbler. Tumbler qui vient de bien courir sur cette piste, mais sur une distance un peu plus longue. Il aborde du reste celle des 1400 mètres pour la première fois, mais attention, il a vraiment bien couru. En dernier lieu, il était d'ailleurs chuchoté sur l'hippodrome. Il est capable de se réhabiliter totalement dans ce prix de cheville. Je vous rappelle Antoine ma sélection avec en tête le 9, Royal Sheik, puis le 5, Isa Step, le 12, Times Boulevard, le 11, Tumbler, qui est donc l'outsider de RTL, le 4, Apax, le 8, Étatique, et enfin le 2, Kenley, le 9, le 5, le 12, le 11, le 4, le 8, et enfin le 2, pour un départ, Antoine, à 15h15.
Merci Dominique Cordier, c'est bien noté vos pronostics comme toujours à retrouver sur rtl.fr. Il est 8h13.
On est sur une recette un peu provençale.
Les recettes.
On ajoute de l'huile d'olive.
RTL.
Direction la cuisine RTL, c'est avec notre journaliste gourmand et gourmet. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Antoine.
Ce matin, vous nous faites voyager avec une recette d'Asie du Sud-Est.
Un dessert de street food, le mango sticky rice, le riz gluant à la mangue, on pourrait le traduire comme ça. C'est un genre de lait de coco, de riz au lait de coco en fait. C'est la chef somme du restaurant Le Thaï au village Castigno à Assignan qui m'a fait découvrir cette recette. Merci par avance à Valentin Thor pour la traduction.
Et ben on vous suit dans l'Hérault pour la recette.
Bonjour Sam.
Sawadika, bonjour.
Qu'est-ce qu'on fait en premier pour la recette ?
On va commencer déjà par faire tremper le riz 2 à 3 heures parce qu'il est un petit peu plus dur que les autres types de riz.
Comment on cuit le riz ?
On le cuit donc normalement traditionnellement dans une sorte de panier en bambou. Mais si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez le faire dans un cuiseur vapeur avec un torchon. Pendant qu'on est en train de faire cuire le riz, on va mettre à chauffer donc 200 g de lait de coco avec le sucre et le sel.
Comment on sait quand c'est prêt ?
Une fois que ça a bouilli, le sucre a fondu et le sel aussi. Une fois que le riz est cuit, on le débarrasse dans un cul-poule, un saladier à la maison. Et on va venir verser donc la moitié de la préparation qu'on a préparée donc avec le lait de coco. Et on va mélanger délicatement sans casser les grains de riz.
Le riz va absorber aussi un peu le liquide ?
Voilà, c'est ça. On va rajouter un film plastique par-dessus pour le laisser reposer environ une quinzaine de minutes.
Pendant qu'on laisse le riz absorber notre préparation, il y a une autre petite sauce qu'on va faire.
C'est à base de lait de coco, farine de maïs, de riz, pardon, sucre et sel. Là, c'est un peu le même principe, donc il faut faire chauffer doucement, bien mélanger, surtout rester devant et vérifier pour pas que ça fasse des morceaux de farine et que ça épaississe trop, quoi. En 2 minutes, c'est prêt, c'est très rapide.
Donc on revient au riz. Là, l'idée, c'est de le remélanger, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc petit à petit, on va venir ajouter notre mélange de départ, donc avec le lait de coco.
On avait mis que la moitié au départ.
Voilà, on avait mis que la moitié, et là, on va venir vraiment cuillère par cuillère pour avoir une bonne texture et que ça fasse pas un bloc collant, un peu trop dur, quoi. Pour le dressage, on va utiliser 2 grosses cuillères et on va venir faire une quenelle de riz. Donc par-dessus, on va venir ajouter donc de la mangue fraîche coupée en tranches. On va ensuite ajouter aussi du sésame torréfié. Et ensuite, la sauce qu'on a préparée donc à base de coco, sel et farine de riz.
Je goûte.
Yes, please.
Ouais, super bon. On a le riz gluant, mais lié, un peu sucré avec le lait de coco. La mangue. Ah ouais, la mangue, c'est splendide. Merci beaucoup, Sam.
Merci beaucoup. Khokun ma ka.
Comment je le dis, moi ? Khokun kra.
Yes.
Merci beaucoup, Sam. Merci.
Vous nous faites voyager, hein.
Expert Thaïlande.
Votre conseil du jour à présent, Pierre.
Alors, une astuce pour notre riz au lait, mais cette fois bien de chez nous. Vous faites la recette que vous avez l'habitude de faire. Vous le mettez simplement au frais avant de le déguster pendant quelques heures. Il faut qu'il durcisse. Et ensuite, vous allez monter une petite chantilly à côté. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement incorporer cette chantilly dans notre riz au lait. Ça va le rendre mousseux et aérien comme un nuage.
Mais un poil plus gourmand aussi.
Un peu plus riche.
Merci beaucoup, Pierre. Comme d'habitude, tout le détail, les photos sur rtl.fr.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage.
Ça, c'est Zao Tsagaz en nouvelle étoile de la chanson française. 4 victoires de la musique. Elle sera en tête à tête avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter dimanche. Ce sera à 9h15 sur RTL. Elle a enflammé également cette semaine le printemps de Bourges. Bourges, où nous sommes dans quelques secondes, c'est la balade de Jean-Sébastien Petit de Mange. A tout de suite.
Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière.
RTL, en vivre ensemble.
Symphonie des éclairs.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça chipote pas là.
Ça chipote pas là où ?
Chez Lidl, dès demain, les 6 chipolatas sont à 2,49€ les 330 grammes au lieu de 3,49€, moins 28%.
2,49€ les 6 chipolatas.
Et c'est du porc français, hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,55€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin. Il vous dit...
Merci chérie, c'est trop.
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
C'est l'heure de partir en balade. Comme tous les week-ends, il y a trois guides du Routard, des éditions Hachette à gagner à la fin de cette chronique. Alors, depuis le début de la semaine, Bourges vit au rythme de son printemps, fin des festivités ce soir. Mais musique ou pas, Bourges est une ville à découvrir, mon cher Jean-Sébastien Petit-Demange. Du coup, balade dans la préfecture du Cher.
D'abord parce que c'est la capitale d'un ancien pays de France, le Berry. On y croise des églises romanes, des vignes qui ont pour nom Sancerre ou Mentoux-Salon. On découvre des châteaux choucards et des villages se souvenant encore du passage de Georges Sand ou d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Bourges a su conserver et entretenir son patrimoine architectural totalement exceptionnel. Du coup, la ville a traversé le temps en restant fidèle aux mots de Jules César. C'est la plus belle ville, peut-être, de toute la Gaule. Et derrière les remparts de l'antique cité, les nobles hôtels gothiques, les bâtiments Renaissance et les maisons à pans de bois sont autant de témoignages éclatants d'un passé plus que prestigieux, à tel point que Bourges fut pendant un temps la demi-capitale du Royaume de France.
La demi-capitale, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, en pleine guerre de Cent Ans, Charles VI est devenu dingue, d'où son surnom Charles le Fou. Sa femme, Isabeau, en a profité pour livrer le royaume aux Anglais, au prétexte que le dauphin était un bâtard. Si quelqu'un était au courant de ce genre d'infos, c'était elle. Par chance, certains avaient senti les ennuis se pointer. Du coup, exfiltration du dauphin, direction Bourges. Et voilà pourquoi, en se retrouvant à Chinon à un moment, Jeanne d'Arc s'est pointée avec le projet de faire couronner Charles VII à Reims, ce qui fut fait en 1429. Problème, une fois Jeanne d'Arc exécutée, Henri VI d'Angleterre a débarqué, s'est fait couronner roi de France à Notre-Dame en 1431. D'où l'explication de la demi-capitale. Et à ce moment de l'histoire, il y a un personnage essentiel qui débarque, Jacques Coeur.
Ouais, Jacques Coeur qui est célébré à peu près partout dans Bourges.
C'est clair, du lycée au resto, en passant par le palais, maison de celui qui fut le grand argentier du roi. C'était un génie des affaires. Et en devenant surintendant des finances, il a rempli les caisses du royaume pour poursuivre la guerre. Et puis il a accumulé lui-même une fortune absolument colossale grâce à la vente du sel, la production de métaux et de textiles. Il était aussi armateur, transporteur. En fait, c'est le premier capitaliste de l'histoire. Grâce à lui, Bourges est devenu un phare intellectuel et artistique connu dans toute l'Europe de l'époque. Son palais est totalement somptueux. C'est un des plus beaux bâtiments civils gothiques qui soient dans ce pays. Impossible de détailler chaque recoin de cette maison parce que tout est œuvre d'art. Et puis il y a des innovations totalement étonnantes pour l'époque. Les salles de bain sont d'une modernité incroyable. Enfin, il n'y a que des merveilles, comme dans toute la ville, de la rue Bourbonnoux à la rue Joyeuse, en plaçant par la place Gordon.
Et l'autre merveille de Bourges, c'est sa cathédrale.
Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, elle date des 12e et 13e siècles. C'est une véritable splendeur du gothique. 120 mètres de long, 40 mètres de large. Elle possède une statuaire inouïe, majestueuse autant par ses façades que par la richesse des décors intérieurs. La forêt de piliers, qui est d'une grande simplicité, qui se succède dans la nef, donne une perspective qu'on trouve nulle part ailleurs. Les vitraux font partie des plus beaux de France, en particulier celui consacré à Jacques Coeur, bien sûr, un chef-d'œuvre absolu du 15e. Et que dire de l'horloge astronomique ? C'est l'une des plus anciennes toujours en marche. Et elle indique qu'il est l'heure de continuer la balade en descendant vers le Marais de Bourges. C'est une balade qui fait 30 minutes à peu près. Vous allez vous retrouver dans un havre de paix de 140 hectares, protégé. La vue sur la cathédrale est absolument fabuleuse. Ce marais, c'est un poumon de la cité. Il a servi de réserve d'eau, de rempart naturel contre les envahisseurs durant l'histoire. On y a cultivé le chanvre. Le maraîchage s'est développé là-bas à partir du 17e. Il renaît depuis quelques années au milieu d'une flore et d'une faune absolument remarquables. C'est un des beaux endroits à découvrir dans ce pays avec la ville de Bourges.
Avec la ville de Bourges. Magnifique balade signée Jean-Sébastien Petit-Demange. Et Jean-Seb, pour recevoir l'un des trois guides du routard offert par les éditions Hachette, il y a sept questions.
Quel est le gentilé des habitants de Bourges ?
Oh, ça vous aimez bien les gentilés.
Oui.
Vous avez la réponse. Les SMS 64 900 code matin. Évidemment, vous n'hésitez pas. Dans un instant, on va jouer à l'autre jeu du dimanche. On va jouer au Kiki.
Ah oui.
C'est une édition spéciale barre chocolatée. On va tout vous expliquer parce que oui, il faut des explications. Je vous le confirme. On vous le rappelle, on vous fait gagner un séjour dans un club Bellambra. À tout de suite sur RTL.
RTL matin, week-end.
Anthony Martin sur RTL.
Laissez-vous tenter.
Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Omar Sy se confie longuement dans un livre d'entretien. Il a accepté de nous en parler en exclusivité. La chanteuse Zao de Sagazan, auréolée de 4 victoires de la musique, a fait un passage remarqué cette semaine au printemps de Bourges. Elle sera notre invitée en tête-à-tête. Et puis, nous vous emmènerons à Athènes avec l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt dans le décor de son nouveau livre consacré à l'histoire de l'humanité. Laissez-vous tenter, c'est chaque dimanche à 9h15. Alors,
laissez-vous tenter. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew. Véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement ? Juré ?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
RTL Matin.
Weekend.
Et je vous propose de rejouer au grand jeu du dimanche sur RTL. Oui. C'est tous les dimanches dans RTL Matin Weekend. C'est le jeu du Kiki. Alors, je le rappelle, nous sommes le 28 avril. Et le 28 avril 1789, il s'est passé un événement historique. La révolte à bord du navire, le Bounty. C'est donc un Kiki spécial barre chocolatée. Première question. Kiki a un mois de retard. On cherche un chanteur qui a donc un nom qui rappelle fortement, très fortement, une barre chocolatée. Attention, plus compliqué, un vieux film, Kiki est énervé.
Je prends le commandement de ce navire. Monsieur Fryer, donnez-moi les clés du magasin d'armes. Vous avez donné vos derniers ordres, Clyde.
Ça ne mène à rien de fomenter une mutinerie, monsieur Christian.
Là encore, il y a une barre chocolatée qui se cache dans le titre du film, et je crois qu'on vient même de parler de l'événement. Bon, bref, c'est un film des années 60 avec Marlon Brando. Là, je crois que vous avez trouvé.
C'est du Bounty, non?
Et puis enfin,
non,
Kiki
parce qu'à
règne.
Un moment donné, quand on dit tout, on dit tout.
Kiki règne.
Là, c'est pas Kiki.
Le titre d'un dessin animé, et là encore, il y a une barre chocolatée. Je le rappelle, vous jouez pour un séjour d'une semaine dans un club Bellambra. Vous avez plein de destinations, plus de 40. Vous avez la mer, la campagne, la montagne. C'est un séjour d'une semaine en demi-pension pour 4 personnes d'une valeur de 2000 euros. Sylvain envoie des roses à Valérie. C'est la fête des Valéries ce dimanche.
Merci.
8 degrés en Auvergne. Claudine souhaite un bon dimanche à tous. Elle a 8 degrés également. Elle est du côté de Saint-Malo. Elle a même un brin de soleil.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
Ça durera pas.
C'est vrai, même en Bretagne.
C'est ma fête, hein, donc le soleil, il est que pour moi. Non, même en même temps, à Paris, on n'en aura pas beaucoup non plus.
Il aurait fallu qu'il vous éclaire un peu, tiens. Pardon.
C'est tellement...
Et bonne fête.
Tellement gratuit. Merci beaucoup. Ça va rester très pluvieux toute la journée sur les régions de l'Est. Hein, ça va de l'Alsace jusqu'aux portes des Bouches-du-Rhône. De grosses pluies orageuses. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, eux, profiteront du soleil. Alors, c'est le cas ce matin en Corse. Ça va tarder un petit peu pour le Var et les Alpes-Maritimes, mais ça viendra. Et donc, pour tous les autres, y compris l'Ouest, le Nord, le bassin parisien, les régions centrales et le Sud-Ouest, certes, on va avoir des éclaircies, mais aussi beaucoup de nuages. Quelques averses ici ou là qui vont à nouveau s'intensifier et tourner à l'orage cet après-midi, donc entre la Normandie et les Pays de Loire. 13 degrés à Mâcon au meilleur de la journée, 14 au Havre, 15 à Caen, à Tours, à La Rochelle, 17 à Paris et Toulouse, 18 à Grenoble, 19 degrés à Toulon. Et pendant ce temps-là, on a la Corse qui va afficher 26 degrés à Ajaccio. On se demande comment c'est possible.
Un autre monde. Merci beaucoup Valérie. RTL, 8h30.
RTL Matin.
Toute l'actualité, c'est avec Hermine Leclerc. Bonjour Hermine.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Emmanuel Macron met les deux pieds dans la bataille des européennes.
Alors que sa liste Renaissance ne décolle pas dans les sondages après son discours de la Sorbonne la semaine dernière, cette semaine, le président prend la parole dans la presse quotidienne régionale. Il plaide pour l'ouverture d'un débat au sujet d'une défense européenne commune avec l'arme nucléaire et tacle directement le Rassemblement National, ce qui n'est pas anodin. William Galibert, à un mois et demi des élections européennes.
Oui, et à la Sorbonne, il n'avait même pas prononcé le nom de ses adversaires d'extrême droite pendant son discours. Cette fois, il n'y a plus aucune fausse pudeur. Le RN ne propose rien, tranche Emmanuel Macron. Il sert aux gens de la démagogie et il poursuit. Un réceptacle de colère ne fait pas un programme. Face au président, des jeunes de 19 à 26 ans, à cette jeunesse, il répète qu'il faut davantage d'Europe. Europe de la défense, avec pourquoi pas la dissuasion nucléaire française au service de l'Union. Une Europe où la concurrence est loyale pour nos agriculteurs. Une Europe plus simple et moins technocratique. Mais ce message est-il assez fort, assez précis pour relancer son camp et sa candidate Valérie Ayé? Cet électorat jeune, il a beaucoup cru en Emmanuel Macron lors de son arrivée au pouvoir en 2017. Mais lui aussi, aujourd'hui, s'est massivement tourné vers Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Merci William Galibert du service politique de RTL. Les élections européennes du 9 juin au menu du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. Ce midi, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, et l'invité d'Olivier Bost. Il sera aussi question des propos hier de Gabriel Attal suite à l'occupation des locaux de Sciences Po par des étudiants pro-palestiniens ces derniers jours. Il n'y aura jamais de droit au blocage dans les universités, a martelé le Premier ministre.
C'est de l'actualité également ce matin. Éric Dupond-Moretti dévoile un grand plan contre le trafic de drogue.
Dans un entretien à la Tribune dimanche, le garde des Sceaux annonce la création d'une juridiction spécialisée en la matière et un statut de repenti élargi. Très concrètement, un ancien trafiquant de drogue pourra plus facilement changer d'identité et obtenir une peine de prison allégée s'il choisit de briser l'omerta. Une mesure déjà appliquée en Italie dans la lutte contre la mafia. Olivier Bonnel, vous êtes notre correspondant à Rome. Très concrètement, comment tout ça s'applique de l'autre côté de la frontière?
La décision de collaborer se fait d'abord par l'intermédiaire d'un avocat ou directement avec un juge anti-mafia. Commence alors un processus d'interrogatoire avec les autorités judiciaires où de premières informations sont livrées. Devenu collaborateur de justice, le repenti doit répondre à des critères stricts. La loi prévoit par exemple une sortie de prison anticipée à condition qu'au moins un quart de la peine ait été purgée. Depuis 2001, la loi sur les repentis fixe par ailleurs un délai maximum de 6 mois pour la transmission à la police ou à la justice d'informations déterminantes, faute de quoi ils perdent leur statut de collaborateur. Un programme de protection est bien sûr prévu pour le repenti et sa famille, qui nécessite le plus souvent changement d'identité et de domicile. Le repenti qui peut enfin bénéficier d'allocations, tout comme obtenir des aides à la réinsertion sociale. Selon les dernières données datant de 2023, l'Italie compte un peu plus d'un millier de repentis et près de 5000 de leurs proches vivent sous protection policière.
Olivier Bonnel, correspondant à Rome pour RTL.
Alors, un statut de repenti, une juridiction spéciale pour juger les trafiquants, autant de sujets qu'on abordera avec Maître Hugues Vigier, avocat pénaliste. Il est l'invité de RTL d'ici une dizaine de minutes. Près de 5000 foyers privés d'électricité dans le sud-ouest. Ça aussi, ça fait l'actualité ce matin, Hermine.
Conséquence des vents violents et des orages d'hier soir, des rafales à plus de 70 km par heure qui ont fait tomber des arbres sur les habitations. Ce matin, la terrasse de Juliana, habitante à Dax, est dévastée.
Les arbres qui s'agitaient dans tous les sens, le sol était recouvert de grêle blanche. Donc vraiment, on aurait dit qu'il y avait neigé hein, de loin. J'étais avec ma fille de 7 ans qui était peu rassurée à voir les éclairs, le tonnerre. Moi, j'ai essayé de la rassurer en lui disant qu'on était dans la maison et qu'on ne risquait rien et qu'on était resté à l'abri. Bah, moi, ma terrasse s'est vite transformée en patinoire. En 5 minutes, ça a été très rapide. Et puis, bon, la terrasse, elle est dévastée. Il y a plein de terre partout. C'était vachement impressionnant parce que juste avant, on avait un peu de soleil. Et le temps, il s'est dégradé vraiment en 5-10 minutes de temps.
Propos recueillis par Clara Itchari pour RTL. Et les usagers de l'A13 vont devoir prendre leur mal en patience. Le tronçon qui sépare Paris de Vaucresson restera fermé après le 1er mai en raison de faibles mouvements de terrain. C'est ce qu'annonce la préfecture des Hauts-de-Seine sans préciser la date de réouverture.
RTL 8h34.
RTL Sport.
Les sports avec ce matin Le Havre qui retarde le sacre du PSG. Et puis la retraite de la joueuse Alizée Cornet. C'est du tennis.
Il faut croire que Paris n'avait pas la tête au titre. Hier soir, le PSG passe à côté du sacre de champion de France et concède un nul au Havre. 3 partout, les Ciel et Marine, 15e au classement, arrachent un point et ne sont plus barragistes. Le PSG, lui, n'a pas mathématiquement encore le titre de champion de France entre les mains. Mais c'est tout comme, selon leur entraîneur, Luis Enrique.
Nous sommes champions, qu'il n'y ait pas de fête, ça m'est égal. Nous sommes champions de Ligue 1, ça fait aucun doute. On a 29 buts d'avance sur le deuxième au classement, c'est très bien. Moi, je me sens déjà champion. Même si on perd les derniers matchs, d'ailleurs, nous serons champions. Hein. On va aussi disputer la finale de la Coupe de France. On va tenter de disputer la finale de la Ligue des Champions. Je crois que l'équipe est dans le meilleur moment de la saison. J'ai absolument aucun doute là-dessus.
Propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL.
En rugby, le tournoi Destination chez les filles s'est encore raté.
Les Françaises se sont retrouvées impuissantes hier soir face à l'Angleterre, battues 21 à 42. Les Red Roses remportent le Grand Chelem pour la 6e fois consécutive. Côté hommes, début de la 22e journée du top 14. Hier, Toulouse a balayé le Racing 92-32 à 12. Clermont remonte à la 10e place après sa victoire face au Stade Français. Et puis la Furia catalane, Perpignan s'impose face à Montpellier 20 à 25, l'USAP entre donc dans le top 6. Le maintien est acquis. En basket, Dijon remporte la Coupe de France face à Strasbourg, 83-70. En tennis, 3e tour, homme des Masters 1000 de Madrid, Hugo Humbert, joue à 9h contre l'Allemand Yann Lennard Struff. Côté femme, Caroline Garcia affronte l'Italienne Yasmine Paolini à 14h. Et la joueuse Alizée Cornet prendra sa retraite après Roland-Garros. Elle l'a annoncé sur Canal+, hier soir. Écoutez-la.
Je vais jouer mon dernier Roland-Garros dans un mois, tout pile, et je prendrai ma retraite dans la foulée. Ça me fait bizarre de dire ces mots à voix haute, ça fait longtemps que j'y pense, mais de l'annoncer officiellement, ça fait un petit quelque chose. C'est le bon moment parce que c'est le résultat d'un long cheminement. Mon classement a un peu baissé, ça m'a aussi permis de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ma carrière. Là, je sens que j'ai un peu moins à donner en termes d'envie, et pour moi, c'est le bon moment de dire au revoir au tennis.
La joueuse de 34 ans sera à son 69e Grand Chelem.
30 ans après sa mort, Ayrton Senna est toujours dans le cœur des Français.
Résultat de notre sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL au sujet de ce pilote brésilien décédé en 1994 suite à un accident au Grand Prix de Saint-Marin. Un drame qui avait bouleversé le monde entier à l'époque, Baptiste Durieux.
Oui, et pour les Français, Ayrton Senna est le deuxième meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Le Brésilien est derrière Michael Schumacher, 7 fois champion du monde, mais devant Alain Prost. 76% des amateurs de Formule 1 considèrent d'ailleurs que la rivalité entre le pilote français et Ayrton Senna est l'une des plus grandes de l'histoire du sport. 30 ans après sa mort, sa disparition est encore très présente dans les esprits. 8 Français sur 10 se souviennent ou ont entendu parler du drame d'Imola. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna trouve la mort sur le circuit italien en perdant le contrôle de sa monoplace dans un virage. Un accident à l'impact majeur dans la Formule 1. 90% des amateurs de F1 considèrent que cet événement a renforcé la sécurité des pilotes. Parmi les évolutions des 30 dernières années, les amateurs de F1 jugent que les plus utiles sont le système ANS, un équipement qui permet de maintenir la tête des pilotes au niveau des épaules lors d'un choc frontal. 36% évoquent aussi les normes plus strictes de crash test et 34% le retravail des circuits.
Et on reviendra sur la mort d'Ayrton Senna dans On refait le sport, c'est à 19h15 avec Isabelle Langer.
À suivre aujourd'hui, Hermine.
Suite et fin de cette 31e journée de Ligue 1, 7 matchs au programme à 13h. Metz 15e accueille Lille 4e. À 15h, Lorient, Toulouse, Clermont, Reims, Strasbourg, Nice, Rennes, Brest, c'est à 17h. Premier choc à 19h, les Lyonnais 9e affrontent Monaco 2e. Et puis 21h, l'OM face à Lens. Match à suivre évidemment dès 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro.
En Angleterre, le sprint final pour le titre de champion se poursuit.
Le leader Arsenal sur la pelouse de Tottenham à 15h. À 17h30, Manchester City 2e avec un match en moins se rend sur le terrain de Nottingham Forest. Chez les filles, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le PSG accueille Lyon sur la pelouse du Parc des Princes à 16h.
En rugby, la suite de la 22e journée du top 14.
Les Rochelais, 6e au classement, accueillent Toulon, 4e. De la moto aussi cet après-midi à 14h. Vous avez rendez-vous avec le Grand Prix d'Espagne. Handball côté filles, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Metz affronte Bucarest, c'est à 16h.
L'actualité de ce dimanche matin, c'est avec Hermine Leclèche. Hermine revient vous informer à 10h. Toute l'actualité sur RTL.fr.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe Cavrivière, c'est tous les matins sur RTL, le meilleur du meilleur, le week-end. Philippe Cavrivière, mardi, face à Nicolas Taverneau, le jour où le président du directeur du groupe M6 a passé la main.
Alors, Nicolas Taverneau, vous êtes celui qu'on appelle le patron, le boss, le parrain, le taulier ou encore l'autre enfoiré, comme disent certains dans votre dos, que je ne citerai pas,
ah oui,
par respect non, pour les journalistes échos à la calvitie affirmée. Les météorologues priapiques, les médecins américano-berbères, les cuisiniers contents, les chroniqueuses nonagénaires habillées en rouge, les journalistes au nom de ville corse, les toulonnaises au rire sonore, bref, tous ces faux culs. Alors Nicolas, c'est 37 ans à la tête d'M6, 37 ans au pouvoir, c'est un peu moins qu'Omar Bongo ou Kadhafi, qui ont tenu 42 ans, mais c'est mieux que Fidel Castro, Saddam Hussein, Moubarak ou Pinochet. Bravo patron, pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'il est là, Nicolas, il a connu Charlie et Lulu de leur vivant. Et ce soir est organisée une grande fête surprise.
Oui.
Merde, je l'ai dit. En l'honneur de Nicolas.
Oui.
Mais comme c'est encore lui le patron, il y aura des chips Marc Repère, des gâteaux secs périmés, voilà, de l'eau du robinet. Mon conseil, venez avec votre cake maison et votre gourde. Non, je ne parle pas d'Amandine. Enfin,
non,
mais il a regardé. Non, mais vraiment, Yves, c'est quoi? Écoutez, c'est 20 des années 80.
Philippe Cavrivière, c'est tous les matins dans RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. Il est 8h41.
Égale M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL.
On apprend des choses dans RTL Matin Week-end. Mac Lesguy avec nous tous les dimanches. Bonjour Mac.
Bonjour Antoine.
Et aujourd'hui, vous nous parlez piles électriques.
Eh oui Antoine, de ces piles dont nous avons besoin pour alimenter en électricité nos objets connectés, détecteurs d'incendie, capteurs, thermomètres, etc. Les Français en consomment encore en moyenne 23 par an. Alors ces piles, c'est toujours un sujet. Elles contiennent des matériaux, vous le savez, dont l'extraction a un impact environnemental et il y a risque de pollution après usage si elles se retrouvent dans la nature.
Oui, mais pour éviter tout ça, on a mis en place des filières pour la collecte et le recyclage des piles.
Ah, tout à fait. Mais savez-vous quelle est la proportion des piles collectées pour le recyclage? 57% seulement.
Ah oui.
Ce qui veut dire que les 43% restants dorment dans nos placards ou pire, sont jetés avec nos déchets ménagers ou carrément dans la nature.
Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment polluant dans nos piles?
Alors, des constituants toxiques ou dangereux, le mercure, le plomb, le cadmium, ont quasi disparu des piles modernes. Mais il y a toujours du nickel, du cobalt ou du lithium inflammable au contact de l'air. Hors de question qu'elles se retrouvent dans la nature.
Oui, donc on comprend que c'est vraiment important de recycler les piles.
Exactement. En plus, le recyclage permet de récupérer les matériaux, ce qui évite d'en extraire du sol. Mais l'idéal serait de disposer de piles dont l'empreinte environnementale à tous les stades de sa vie, fabrication, usage, élimination ou recyclage, serait plus faible que les piles actuelles.
Oui, de ce côté-là, est-ce qu'on a des espoirs?
Eh bien oui, et c'est de l'un d'entre eux dont je voulais vous parler aujourd'hui. Une start-up française est en train de développer des piles dans un matériau révolutionnaire. On le trouve en abondance dans le sol, dont c'est même un des constituants. Ce matériau, tenez-vous bien, c'est l'argile.
L'argile du sol ?
Eh oui, car l'argile, ce sont des silicates d'alumine hydratés, pour les puristes. C'est un matériau qui contient des ions chargés électriquement, ce qui la rend conductrice. De ce fait, elle peut, dans une pile, servir d'électrolyte.
Et il n'y a que ça dans la pile ?
Alors non, une pile, c'est un milieu. l'électrolyte, dans lequel on place, tous les collégiens apprennent cela en TP de physique, une anode et une cathode. Oui. Celles-ci sont en matériaux à base de carbone, graphite et charbon actif, des matériaux inertes, sécuritaires, pas de risque d'incendie ou de pollution. La start-up strasbourgeoise Aequo a déposé le brevet en 2019 et depuis elle travaille à l'amélioration de ses performances, à sa production et à sa commercialisation.
Bon, mais est-ce qu'elle a des performances équivalentes à une pile classique ?
Non, en termes d'intensité du courant électrique fourni, c'est quelques milliampères, on est en dessous d'une pile classique. Mais nous avons plein de petits appareils électriques qui ne nécessitent pas une grande puissance. En revanche, ces piles auraient une bien meilleure longévité. Alors imaginez, un détecteur de fumée, un capteur dans une voiture difficile d'accès sont alimentés par une pile intégrée qui va délivrer en continu le courant électrique nécessaire à son fonctionnement pendant une dizaine d'années, soit la durée de vie de l'appareil. Plus besoin de se préoccuper du changement de pile.
Ça fait un peu penser aux ampoules LED.
Exactement, ce sera une vraie percée technologique.
Et quand est-ce qu'on va les avoir ces piles ?
Alors, le fondateur d'Aequo envisage de réaliser une levée de fonds cette année pour faire tester ses piles en conditions réelles par des clients, puis une autre en 2025 pour passer à l'échelle industrielle. Souhaitons-lui bonne chance, car s'il réussit, il apportera une nouvelle fois la preuve que dans une technologie aussi basique que les piles électriques, on peut toujours innover avec des produits plus frugaux. La sobriété, ça passe aussi par l'innovation. Bon dimanche Antoine.
Bon dimanche à vous Mac Lesguy, vous êtes toujours aussi brillant. Votre chronique à retrouver sur RTL.fr, l'application RTL. Et un tout autre sujet dans un instant, l'invité de RTL Matin Weekend est avec nous, l'un des plus grands avocats pénalistes de notre pays, Maître Hugues Vigier. Bonjour Maître.
Bonjour.
On va décrypter ensemble les annonces ce matin du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti veut créer notamment un véritable statut du repenti. C'est une bonne chose ?
Écoutez, je pense que c'est une bonne chose dans une certaine mesure. Le statut de repenti existe déjà depuis longtemps, donc il ne s'agit pas de le créer. Mais si on a fait choix de ce statut, et ça
peut se véritable, discuter... Un véritable, voilà. Ce sont ces mots. Voilà.
Faire choix de ce statut, ça peut se discuter. Une fois qu'on en a fait choix, il faut incontestablement l'améliorer.
Et on en discute ensemble dans quelques secondes. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou ! C'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques hein.
Mais pour ça vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€. Eh oui, dès demain chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué. Hein.
En barquette, patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Antoine Cavallero,
RTL Matin jusqu'à 9h15.
Il est 8h46 et nous recevons donc ce matin Maître Hugues Vigier, grand avocat pénaliste. Vous avez notamment défendu des trafiquants de drogue de la région marseillaise, mais pas que. Vous êtes avec nous en studio ce matin car Éric Dupond-Moretti l'annonce dans la Tribune Dimanche, le journal La Tribune Dimanche, un grand plan pour lutter contre les trafiquants de drogue. Commençons par ce parquet national anticriminalité organisée, il a déjà son acronyme, le PNACO. Il devrait voir le jour en octobre. L'idée, c'est d'avoir comme le PNAT en matière de terrorisme, un tribunal spécial. Ça a du sens, selon vous, cette annonce du garde des Sceaux ?
Écoutez, moi j'en suis un peu surpris. D'abord, pour en vanter les mérites, quand on décide de le créer, le ministre vient dire qu'il faut regarder par exemple les résultats remarquables du parquet national financier. Chacun se rappellera à quel point il le critiquait en son temps. Je pense que ces juridictions archi spécialisées créent des chevaliers blancs. et que c'est une véritable difficulté, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en mission et qui ensuite ont un regard qui n'est plus le regard qu'on doit avoir quand on continue de juger des hommes.
Éric Dupond-Moretti rappelle tout de même que le PNAT aussi, à l'époque de sa création, avait fait l'objet de critiques et qu'aujourd'hui tout le monde est quand même plutôt satisfait du travail du parquet national antiterroriste.
Alors s'agissant du PNAT peut-être, c'est très singulier ce dont nous parlons là, mais en matière économique et financière, en matière de criminalité organisée, nous avions déjà de manière régionale les GIRS, 8 en France, des parquets spécialisés dans chaque GIRS. Faut-il un parquet national? Moi je n'en suis absolument pas convaincu, et on va faire donc des super magistrats du parquet qui vont chapeauter les super magistrats régionaux du parquet. Je pense que c'est véritablement dangereux.
Pour vous, ça ne sert à rien pour lutter contre le trafic, la criminalité organisée?
Alors, il faut lutter contre la criminalité organisée, incontestablement, il faut s'en donner les moyens. Mais moi, je considère que ce qu'il faut surtout, c'est renforcer les moyens des services de police qui travaillent dans ce domaine, des magistrats, des tribunaux, des juridictions locales. Faut-il tout centraliser? Je ne crois pas que ça ait grand sens.
Il y a aussi cette procédure spécialisée. Éric Dupond-Moretti veut changer les règles quand les trafiquants tuent. Alors, c'est un petit peu complexe, mais pour résumer, il veut que ces trafiquants qui tuent soient jugés par des magistrats professionnels. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça vous semble pas quand même logique?
Non, alors ça me semble absolument pas logique. En réalité, ce qui se joue, il faut le comprendre, c'est la fin des cours d'assises avec des jurés. C'est ça qui se joue. Et vous savez que quand
donc
on
avec
commence...
des citoyens tirés au sort.
Bien sûr. Et là, ce ne serait que des magistrats professionnels en venant dire regardez, pour les trafics de stupéfiants criminels, ce sont déjà des magistrats professionnels. Comment comprendre que dans des dossiers d'assassinat avec notamment des trafiquants impliqués, ce ne soit pas aussi que des magistrats professionnels. On commence par cette exception, et puis une autre, on en avait déjà plusieurs d'ailleurs, et puis on va généraliser. Le but, je le dis, c'est la fin de la juridiction de la cour d'assises telle qu'on la connaissait, et qui pourtant a un véritable sens.
Mais pourquoi c'est important d'avoir des cours d'assises avec des jurés?
Des magistrats professionnels dans des domaines spécialisés, et notamment en criminalité organisée, ils jugent des structures, ils jugent une organisation, et très souvent, on en fait le constat, ils ne jugent plus les hommes. La personne devient finalement très secondaire. Quand on est devant des jurés, on essaie de réfléchir à un parcours aussi, comment quelqu'un a pu en arriver dans la situation dans laquelle il est, pourquoi est-ce qu'il est devenu, éventuellement, s'il est devenu ce délinquant dans de la criminalité organisée. Voilà, tout ça va disparaître au profit d'une espèce de logique d'efficacité, mais qui oublie l'homme.
Il y a eu une loi. Tu oublies le droit de la défense?
Je le pense aussi, assez souvent. Il faut voir que pour ces magistrats archi spécialisés, l'avocat est souvent considéré quasiment comme le complice de son client. Ils sont en lutte contre le crime organisé. Je parle de chevalier blanc, je tiens ce terme. Ils s'affranchissent parfois des règles en considérant qu'on défend un intérêt supérieur. Enfin, est-ce qu'on se rappelle ce que disait le ministre de la Justice quand il déposait plainte juste avant d'être ministre, justement? Il disait, on a un parquet national financier qui se comporte avec des méthodes de barbouze, voilà ce qu'il disait. En gros, qui s'affranchit de la loi pour un intérêt général dont il se fait le seul juge. Bon, c'est très risqué. Quand vous avez des jurés, ils continuent de fonctionner, j'allais dire, de manière normale.
Le ministre de la Justice, pour son argument, c'est de dire que des citoyens tirés au sort peuvent subir des pressions, des menaces. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, dans votre carrière d'avocat, quand on parle d'affaires qui traitent de criminalité organisée, de trafic de drogue?
Alors, j'en ai entendu parler de façon vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai pas été confronté à ça dans un dossier dans lequel je serais intervenu. Et ça n'était pas nécessairement dans des dossiers de trafic de stupéfiants, voyez-vous. Et l'autre problème, c'est quand on dira cour d'assises avec uniquement des magistrats professionnels pour des trafiquants de stupéfiants impliqués dans des assassinats, qu'est-ce que ça veut dire? En lien avec le stupéfiant? Ou des gens qui ont déjà été condamnés pour des stupéfiants. Vous avez des gens condamnés pour des stupéfiants, il y en a énormément. Même des petites condamnations. Vous allez dire, pour eux, il faut une juridiction spéciale. Je vous le dis, nous n'irons plus devant des cours d'assises telles qu'elles existent. On va les supprimer.
Maître Hugues Vigier, venons-en au statut de repenti. Alors, ce statut, il a été créé il y a 20 ans en France. Il est en vigueur véritablement depuis 10 ans. On sait aujourd'hui qu'il y a 18 repentis en France. La grande majorité liée à des trafics de stupéfiants. En Italie, on en compte une centaine. Éric Dupond-Moretti veut s'inspirer de la législation italienne. Est-ce que, vous nous le disiez, ça peut être tout de même une bonne idée pour lutter contre le trafic de drogue?
Bon, le problème dans la criminalité organisée, c'est la puissance de certaines organisations, c'est une loi du silence. Donc c'est une véritable difficulté d'obtenir des éléments de preuve. On a aujourd'hui une police technique scientifique qui est remarquable et donc qui aboutit à des résultats importants. Et puis il y a les éléments déclaratifs, donc des gens qui peuvent vouloir parler et puis qui vont redouter à le faire parce qu'ils ont peur de ces organisations et du poids qu'elles représentent. Bon. Donc on se pose la question du repenti. Ça existe, vous l'avez dit, depuis 2004. En réalité, il a fallu quand même attendre 10 ans pour les décrets d'application, donc depuis 2014. La vraie question qu'il fallait se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le principe même du repenti. C'est une vraie difficulté. Un repenti, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose, mais qui en attend un intérêt second, ou secondaire, si je puis dire. Donc, c'est une démarche intéressée. Pour rappeler à Éric Dupond-Moretti l'Italie, ce pays qu'il aime, et je comprends pourquoi, bien sûr, et il a raison, Cesare Beccaria, fin du XVIIIe siècle, qui parle de la crédulité du témoignage et qui dit dans son livre célèbre des Délices et des Peines, la crédibilité du témoin s'apprécie à l'aune de l'intérêt qu'il a à dire ou à ne pas dire la vérité. Quelqu'un qui vient dénoncer des choses, mais qui sait que en échange, lui, il aura une peine beaucoup moins lourde, voire une exemption de peine, et il sera protégé, et éventuellement il touchera de l'argent. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va pas en rajouter? Est-ce qu'il va pas aller dans le sens de ce qu'on attend? Est-ce qu'il va pas dénoncer, accuser des gens, un système de manière fausse pour en avoir des bénéfices secondaires? Donc il y avait une difficulté sur le statut même du repenti. On l'a choisi. Mais une fois qu'on l'a choisi, par contre, il fallait pas qu'il reste entre deux eaux comme il était. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix, là je comprends en revanche qu'on veuille l'améliorer.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le statut de repenti, il n'est pas, passez-moi l'expression, pas assez attractif.
Alors, ça c'est une grande idée, il n'est pas assez attractif. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, vous n'avez pas de garantie. Vous rentrez aujourd'hui dans un système de repenti ou de collaborateur de justice, vous y entrez au stade de l'enquête de police ou au stade de l'instruction, par exemple, vous ne savez pas quel sort vous sera réservé à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un engagement pris. Oui, vous allez bénéficier d'une diminution de peine. Quand vous irez devant la juridiction de jugement, puisque ce sont des gens qui eux-mêmes ont été impliqués dans l'infraction. Quand vous irez devant la juridiction de jugement, si la juridiction de jugement n'a pas envie de vous faire bénéficier d'une diminution de peine, vous n'en bénéficierez pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas très attractif et on raconte cette anecdote de gens qui ont dénoncé et qui ont été condamnés plus lourdement que le trafiquant principal qui était dénoncé, par exemple. Bon. Donc ça serait l'idée d'avoir non pas un système qui est aléatoire, mais un système fixe dès le début, c'est-à-dire un statut accordé par le juge, et donc une assurance d'avoir une diminution de peine, voire une exemption de peine. Et puis, il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que ce statut n'est pas possible pour des gens qui eux-mêmes ont été impliqués dans des assassinats.
Qui ont du sang sur les mains.
Voilà. Or, comme on veut que ce soit notamment dans ce type de dossier que cela aboutisse, si vous voulez, si les gens interviennent en disant « moi j'ai été impliqué dans quelque chose, mais je veux dénoncer autre chose », si on cherche l'efficacité, il ne faut pas restreindre comme ça. Donc, je le dis, la vraie question pour moi, c'était est-ce qu'il fallait être pour les repentis ou pas? Et pour moi, ça n'est pas une question évidente. Une fois qu'on... Et c'est un vrai problème de crédibilité du témoignage. Une fois qu'on a tranché, alors il faut aller jusqu'au bout.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce qu'il faudrait une meilleure protection pour ces repentis? On a entendu, hein, vous dites qu'il faudrait promettre des réductions de peine plus conséquentes, mais est-ce qu'on protège assez les repentis en France? Est-ce qu'on fait comme aux États-Unis ou en Italie? Est-ce qu'on offre un véritable changement d'identité?
Alors, disons qu'il y a une protection qui existe. D'ailleurs, il y a un service, une commission spéciale, hein, une commission nationale, qui réfléchit à cette notion de protection pour voir si la personne doit en bénéficier et la mise en œuvre de la protection. Et puis, il y a une deuxième chose. Par exemple, vous me parlez de l'identité. Aujourd'hui, c'est une identité d'emprunt. Ce que propose le garde des Sceaux, c'est une identité, un changement définitif d'identité et d'état civil. Donc quelque chose de plus fort, là aussi, bien sûr, la protection, elle peut jamais être absolument certaine, mais en tout cas, il faut incontestablement l'améliorer.
Merci beaucoup, Maître Hugues Vigier, avocat pénaliste. Merci d'être venu dans le studio de RTL ce dimanche matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, le journal de 9h. On va à nouveau revenir sur ces annonces du ministre de la Justice. Et puis, nous aurons le temps, la météo de ce dimanche. C'est avec Valérie Quintin. C'est dans quelques secondes. À tout de suite.
RTL matin.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. RTL. Renew.
Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
À Lille Entrepôte, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux-Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit...
C'est une tuerie, ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriade Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
RTL Matin.
Week-end.
Avec Antoine Cavallero.
On a vraiment des auditeurs partout. Philippe nous écoute près de Barcelone. Il a 11 degrés et des nuages.
Oui, comme quoi, c'est pas mieux qu'en France, hein, en Espagne voilà. Pour le moment. Et en France, on a beaucoup de pluie en ce moment qui partent de Méditerranée, qui remontent jusqu'à l'Alsace. Donc, il pleut fort en Provence, dans le sud des Alpes, dans le Massif central, en région lyonnaise, dans la Bresse, en Franche-Comté. Ça remonte donc jusqu'à l'Alsace. Ça va être le cas toute la journée. Des pluies assez soutenues. La Corse, elle, restera à l'écart au soleil. Et puis, les éclaircies vont gagner le Var et les Alpes-Maritimes dans quelques temps. À l'arrière, on va avoir un ciel nuageux, bien sûr, avec des éclaircies quand même de temps à autre. Quelques petits grains ici ou là, ça pourrait à nouveau tourner à l'orage cet après-midi et ce soir entre la Normandie et les Pays de Loire. 12 degrés à Saint-Étienne cet après-midi, 15 à Cherbourg, 16 à Poitiers, 17 à Paris et Strasbourg, 18 à Albi et 21 pour Bastia.
Et puis c'est à 9h15 sur RTL, toute l'équipe de Laissez-vous tenter dimanche. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors vous l'avez peut-être entendu cette semaine, Omar Sy était